Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Chère tête bien faite, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. Si je vous dis système nerveux, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Sûrement un cerveau, peut-être associé à sa moelle épinière. Bien qu'elle en fasse entièrement partie, la rétine est souvent oubliée dans l'imaginaire collectif. Or, elle est une composante cruciale du sens le plus développé chez nous. En nombre de patients, c'est la partie du système nerveux la plus concernée par les maladies neurodégénératives. Vous vous souvenez peut-être des spots publicitaires de prévention pour la DMLA, une dégénérescence du centre visuel de la rétine qui touche 25 à 30% des plus de 75 ans en France et est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. C'est pour cette raison que la recherche contre la dégénérescence rétinienne est très active à travers le monde. Les approches thérapeutiques varient en fonction des pathologies, mais depuis les années 2010, beaucoup d'espoir se tourne vers l'exploitation de nos propres cellules, en particulier les cellules souches. Les cellules souches se caractérisent par deux propriétés. Lors d'une division cellulaire, elles peuvent soit se renouveler, soit engendrer un autre type de cellules. Les animaux comme les plantes disposent pour la plupart de ces cellules qui leur permettent de se développer et de régénérer les tissus endommagés. Chez les mammifères, il existe des populations de cellules souches neurales dans certaines régions du cerveau, notamment dans l'hippocampe, où elles engendrent des nouveaux neurones qui participent à l'encodage de nouveaux souvenirs. Mais en dehors de ces régions spécifiques du cerveau, le reste du système nerveux ne dispose pas de cellules souches pour remplacer les neurones. Les neurones du système périphérique, c'est-à-dire ceux situés dans nos bras et nos jambes, peuvent faire repousser une partie d'eux-mêmes s'ils ont été endommagés, mais dans le système nerveux central, régénération et réparation sont presque impossibles. Il faut dire que le système nerveux est un tissu particulier, constitué de neurones aux connexions très complexes formées avec le temps, qu'un neurone remplaçant devrait pouvoir reconstituer pour récupérer les fonctions perdues. Mais de manière générale, les caractéristiques des mammifères ne permettent pas l'existence de cellules souches puissantes. Les cellules souches se caractérisent par deux propriétés. Lors d'une division cellulaire, elles peuvent soit se renouveler, soit engendrer un autre type de cellule. Les animaux comme les plantes disposent pour la plupart de ces cellules qui leur permettent de se développer et de régénérer les tissus endommagés. Chez les mammifères, il existe des populations de cellules souches neurales dans certaines régions du cerveau, notamment dans l'hippocampe, où elles engendrent des nouveaux neurones qui participent à l'encodage de nouveaux souvenirs. Mais en dehors de ces régions spécifiques du cerveau, le reste du système nerveux ne dispose pas de cellules souches pour remplacer les neurones. Les neurones du système périphérique, c'est-à-dire ceux situés dans nos bras et nos jambes, peuvent faire repousser une partie d'eux-mêmes s'ils ont été endommagés. Mais dans le système nerveux central, régénération et réparation sont presque impossibles. Il faut dire que le système nerveux est un tissu particulier, constitué de neurones aux connexions très complexes formées avec le temps, qu'un neurone remplaçant devrait pouvoir reconstituer pour récupérer les fonctions perdues. Mais de manière générale, les caractéristiques des mammifères ne permettent pas l'existence de cellules souches puissantes. Chez les mammifères adultes, la plupart des populations de cellules souches sont spécialisées dans la production d'un seul ou de quelques types cellulaires. Les plus remarquables et étudiées sont celles de la moelle osseuse, dont la descendance englobe les globules rouges et toutes les cellules du système immunitaire. Dans le palmarès des organismes champions de la régénération, les mammifères sont très loin en bas du classement. D'une part, la très grande diversité de leur type cellulaire favorise l'existence de cellules souches restreintes à un tissu. Où placer des cellules capables d'engendrer n'importe quel type cellulaire? Et surtout, comment réguler leur activité pour qu'elles n'interviennent que lorsque c'est nécessaire? Sans oublier que si une cellule souche se retrouve atteinte d'une mutation génétique, elle la transmettra à toute sa descendance, y compris aux cellules souches qu'elle engendre. Un effet papillon très dangereux qui peut vite se finir en cancer. C'est là que se pose le deuxième problème majeur. Leur système immunitaire est très développé et conçu, entre autres, pour éliminer les cellules anormales. Or, la capacité d'auto-renouvellement des cellules souches est très similaire à la capacité de prolifération des cellules cancéreuses. Le système nerveux est un des quelques tissus dits immunoprivilégiés, c'est-à-dire que le système immunitaire n'y intervient pas ou très peu, ce qui évite une destruction accidentelle des réseaux de neurones aux fonctions vitales. Il dispose d'un autre arsenal spécifique de cellules dont certaines peuvent remplir un rôle immunitaire, mais pas de la même manière. Or, la clé pour le maintien des cellules souches est leur régulation, grâce à la mise en place d'un micro-environnement qui implique le système immunitaire pour limiter leur prolifération, en plus de les protéger des agressions et du stress qui peuvent engendrer des mutations. En plus des menaces externes, le micro-environnement des cellules souches doit contrôler strictement leur activité pour les protéger d'une grande menace interne aux cellules, le stress oxydatif. Les animaux, les plantes et les champignons sont des eucaryotes. Par définition, ces trois groupes disposent de nombreux outils métaboliques communs pour extraire de l'énergie. Parmi eux, la mitochondrie est un compartiment très précieux. C'est elle qui utilise l'oxygène pour en extraire de l'énergie. Grâce à la mitochondrie, les eucaryotes peuvent produire 40 fois plus d'énergie à partir des sucres et des acides gras qu'ils consomment. Seulement, l'oxygène est une molécule très réactive. Il arrive qu'en fin de parcours, nos cellules se retrouvent avec des espèces réactives de l'oxygène, ou ROS en anglais, des molécules qui peuvent compromettre l'intégrité de nombreuses molécules biologiques, notamment l'ADN. À terme, l'accumulation du stress oxydatif contribue au vieillissement cellulaire, voire à l'apparition de mutations cancérigènes. Vous l'aurez compris, le maintien des cellules souches chez les mammifères est délicat, car il entre en conflit avec deux de leurs caractéristiques majeures. Un très grand nombre de types cellulaires et un système immunitaire très développé et réactif. En plus, l'activité cellulaire induit par défaut un risque de mutation qui augmente au fil du temps, ce qui nécessite de réduire l'activité interne des cellules souches pour les préserver. Pour régénérer la rétine, des techniques ont été développées pour injecter des cellules souches exogènes, mais elles restent limitées à certaines pathologies et impliquent des opérations chirurgicales plus ou moins complexes. Leur taux de réussite est aussi impacté par le rejet de ces cellules par la rétine. Et si l'on trouvait le moyen d'activer la régénération dans la rétine même? L'idéal, ce serait de trouver un moyen d'activer la régénération des cellules de la rétine elle-même. Si l'on regarde seulement quelques branches plus loin dans l'arbre de l'évolution, nous trouvons pourtant des vertébrés aux capacités de régénération impressionnantes. Certaines espèces de poissons peuvent par exemple reconstruire un œil et une grande partie de leur cœur si ceux-ci ont été endommagés. Et ce, en mobilisant en partie des gènes communs avec les mammifères. Dans la rétine, ils sollicitent notamment les cellules de Müller, qui jouent un rôle très diversifié de soutien aux neurones de la rétine, mais qui peuvent remplir ponctuellement un rôle similaire à celui des cellules souches en cas de lésion. Or, si les mammifères n'ont pas de cellules souches dans la rétine, ils disposent bien de ces cellules de Müller. En 2022, une équipe américaine a d'ailleurs réussi à reprogrammer les cellules de Müller pour régénérer des cellules ganglionnaires dans la rétine de souris. Une avancée qui suggère que l'on pourrait découvrir des mécanismes permettant d'activer la régénération même dans la rétine des mammifères. Alors, que font-ils différemment? Et surtout, quels sont les points communs que l'on pourrait exploiter? Aujourd'hui, nous accueillons une jeune doctoresse en biologie qui vient de terminer sa thèse sur ces questions passionnantes. Violeta Hernández Puente est une chercheuse mexicaine qui a étudié la biologie moléculaire et cellulaire sous de nombreuses facettes, de la génomique à la vaccinologie, entre le Mexique et l'Europe. Pendant 4 ans, jusqu'en décembre 2025, lorsqu'elle a passé sa soutenance, elle a travaillé à comprendre un mécanisme intrigant. Le rôle des espèces réactives de l'oxygène dans l'activité des cellules souches et des cellules de Müller chez la rétine du xénope. Les ROS, plutôt connus comme des déchets métaboliques aux effets très délétères, seraient impliqués dans la capacité du xénope à régénérer sa rétine? Violeta nous explique.
Bonjour Violeta. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour parler de ta thèse et de ton expérience en tant que thésarde à Paris. Violeta, qui pour rappel a travaillé sur le xénope, qui est une espèce de crapaud très utilisée en recherche pour comprendre de nombreux processus biologiques, notamment la régénération. Alors déjà Violeta, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que des chercheurs comme toi et comme des centaines d'autres chercheurs dans le monde choisissent d'étudier le xénope pour ce genre de questions?
Ok. Le xénope, ou comme on le connaît dans le monde scientifique, Xenopus, est un organisme très essentiel pour la neuroscience et la médecine régénérative, car cet amphibien possède des caractéristiques biologiques uniques qui contrastent fortement avec les des mammifères. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ont une capacité de régénération exceptionnelle. Contrairement aux mammifères, dont la rétine, par exemple, que c'est les tissus qu'on fait, que je faisais la recherche, et le système nerveux central, ne se régénèrent pas après une lésion. Et le xénope, il peut restaurer sa rétine dans quelques jours, par exemple.
En seulement quelques jours. Et donc en fait, cette capacité de régénération, elle n'est pas seulement en cas de lésion, mais en fait, le xénope régénère sa rétine constamment, de toute manière, au cours de la vie. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, le xénope, il a une neurogenèse continue tout au long de la vie parce qu'il possède une région spécialisée qui s'appelle son marginal ciliaire. Et cette région contient des cellules souches rétiniennes qui sont proches au cristallin. Mmh. Et ces cellules sont continuellement actives et assurent la croissance de la rétine et la production de nouveaux neurones pendant toute la vie de l'animal.
Donc en fait, pour nos auditeurs, si vous imaginez la rétine un petit peu comme un verre de vin, les cellules souches dont parle Violeta se situeraient sur les bords du gobelet. Le cœur de la rétine contiendrait du coup les cellules neurales qui permettent de voir et le cristallin pourrait être au contact des bords de ce verre. Est-ce que c'est à peu près ça?
Oui.
Voilà. Donc finalement, l'une des grosses différences entre le xénope et les humains, c'est ce réservoir de cellules souches actifs en permanence aux abords de la rétine qui permet, quand les cellules meurent, d'être immédiatement remplacées. Chez nous, les photorécepteurs, ainsi que les autres cellules neurales de la rétine, sont plutôt là pour la vie, et lorsqu'elles meurent ou se dégénèrent, elles sont pratiquement pas remplacées.
Oui. Et dans les xénopes, il y a aussi d'autres sources de cellules souches, ou sortes de cellules souches, telles que les épithéliums pigmentaires rétiniens et les cellules gliales de Müller.
Mmh. Donc finalement, trois sources de régénération. Les cellules souches aux abords de la rétine, les cellules de Müller à l'intérieur de la rétine, qui vivent parmi les photorécepteurs et les autres cellules neurales, et l'épithélium pigmentaire, qui constitue une sorte de tissu nourricier. C'est lui qui va rassembler les vaisseaux sanguins et apporter les nutriments au système nerveux. Au cas où vous ne le sauriez pas, le système nerveux est isolé du système sanguin pour des raisons de sécurité immunitaire. Donc finalement, Violetta, parmi ces trois sources de régénération possibles, laquelle t'a intéressée en premier et pourquoi ?
En première, on était d'abord intéressé par les cellules souches rétiniennes parce que, comme j'ai déjà dit, elles régénèrent dans toute la vie de l'animal.
Et donc, il existe évidemment de nombreux mécanismes qui permettent de réguler l'activité des cellules souches. Nous avons touché un petit mot au cours de l'introduction. Mais dans le cas de ta thèse, qu'est-ce qui t'intéressait le plus chez ces cellules souches rétinales ?
Dans mon laboratoire, on s'intéresse par les mécanismes qui régulent la régénération des cellules gliales de Müller et les cellules souches rétiniennes principalement. Et après, on était très intéressé par les espèces réactives d'oxygène qu'on appelle ROS en anglais, c'est l'acronyme. Et on était intéressé par ces signalisations parce que c'est déjà démontré dans beaucoup de recherches que les ROS ont une implication dans divers processus biologiques tels que la division cellulaire, qu'on l'appelle prolifération, et dans la survie de la cellule.
C'est intéressant ce que tu dis parce que il est plutôt connu dans la littérature scientifique et même du grand public que les espèces réactives de l'oxygène sont un produit un peu un déchet du métabolisme qui peut avoir des effets plutôt délétères sur les cellules. Et là, tu nous expliques que les chercheurs savent déjà depuis plusieurs années qu'au contraire, même si elles peuvent avoir des effets délétères, elles sont aussi très importantes pour permettre non seulement la régénération, mais même pour certaines cellules, la survie. Et donc, du coup, ce qui vous intéressait, c'était le rôle des espèces réactives de l'oxygène, donc les ROS, dans les cellules souches rétiniennes. Qu'est-ce que vous avez découvert sur leur rôle ?
Oui, d'abord, on était concentré pour connaître comment était le status de ces ROS dans les cellules souches rétiniennes. Et on a trouvé que les cellules souches rétiniennes ont plus de ROS à comparaison des cellules neuronales déjà différenciées. Ça veut dire des cellules qui sont déjà spécifiées dans un type spécifique de cellules.
À savoir donc des cellules qui ont déjà une fonction et qui ne sont pas capables de se renouveler ou d'engendrer un autre type de cellules, contrairement aux cellules souches.
Oui.
Donc, ce que tu dis est assez intéressant. Finalement, les espèces réactives de l'oxygène, les ROS, qui sont de notoriété publique plus associées au stress oxydatif et à des effets néfastes sur les cellules, seraient en plus grande quantité dans les cellules souches, celles qui se divisent et qui permettent du coup le renouvellement de la rétine. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de ROS dans les cellules souches ? D'où ça vient ?
Oui, c'est une question très intéressante. En fait, on a trouvé aussi dans notre recherche qu'il y avait la présence des antioxydants dans ces cellules souches. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une homéostasie, une balance entre les antioxydants et les espèces réactives de l'oxygène. Et l'autre chose importante à savoir, c'est de où les ROS vient, et elle vient de divers processus, non, de diverses sources intracellulaires et extracellulaires aussi, mais notamment la mitochondrie et les NOX oxydases, que j'appelle toujours comme NOX pour simplifier. Et c'est important aussi de dire que c'est une famille de protéines composée de 7 protéines, NOX 1 à la 5, DUOX 1 et 2.
Alors, on savait déjà que la mitochondrie produit des ROS, parce que c'est le produit naturel du métabolisme. C'est ce qui peut arriver lorsque un atome d'oxygène n'est pas traité correctement par la cellule pour être rendu inoffensif. Mais du coup, cette deuxième source de ROS, les NOX, est-ce que c'est ça qui explique le taux de ROS plus élevé dans les cellules souches ?
Oui, dans notre recherche, on a essayé, on a bloqué les ROS qui venaient soit de la mitochondrie ou de NOX, et on a trouvé que quand on bloquait les ROS dérivés de NOX, on avait moins de cellules en division. Et les cellules qui restaient à proliférer, elles proliféraient un peu plus vite.
Donc, il y a en fait un processus particulier qui implique les NOX, qui produisent du coup des ROS, et qui est important pour l'activité des cellules souches et donc leur capacité à produire de nouvelles cellules. Une fois que l'on sait que les cellules souches rétiniennes produisent plus d'espèces réactives de l'oxygène par NOX, donc ça veut dire qu'il y a une vraie voie de signalisation impliquée dans leur activité, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que ça active dans la cellule. Qu'est-ce que NOX fait qui permet à la cellule d'être soit plus dormante ou au contraire plus active?
Oui, on a trouvé que dans notre recherche, on a trouvé que quand on bloquait les ROS qui viennent de NOX, il y avait plus de cellules dans un état quiescent ou endormi. Et les cellules qui restaient à proliférer ou à se diviser, ils se divisaient un peu plus vite que les autres. Et après, on a cherché par quel mécanisme ces processus étaient actifs. Et nous nous sommes concentrés sur deux voies de signalisation majeures, qui est Wnt et Hedgehog.
Des voies de signalisation effectivement très connues en biologie cellulaire et qui sont connues pour leur rôle à la fois dans la prolifération et dans le cycle cellulaire.
Oui, tout à fait. Et après, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on bloquait les ROS qui viennent de NOX, on avait une diminution dans la signalisation Wnt et une augmentation dans la signalisation Hedgehog.
Ce qui veut dire, du coup, dans des termes plus simples, quand on empêche les NOX de produire des ROS, quand on les inactive, la prolifération diminue, le cycle cellulaire augmente, ce qui explique pourquoi tu as plus de cellules en état de quiescence et que les cellules qui sont en état de division sortent de la division plus vite, se divisent plus vite.
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, on commence déjà à comprendre un peu mieux ce qui se passe. C'est intéressant, du coup, souvent, ce qu'on fait en recherche en biologie moléculaire et cellulaire, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui suivent une première réaction. C'est l'idée un petit peu du jeu du détective. On prend le début de la réaction en chaîne et on essaye de reconstituer jusqu'à la fin. Donc finalement, on a déjà un début d'indice sur ce qui se passe dans les cellules souches rétiniennes du xénope. Maintenant, tu nous as parlé tout à l'heure de trois sources de régénération.
Oui.
Trois sources de régénération, les cellules souches rétiniennes, mais aussi l'épithélium pigmentaire et les cellules de Müller. Cellules qui, contrairement aux cellules souches rétiniennes, nous avons, nous aussi, des cellules de Müller dans nos rétines en tant que mammifères. Et donc, du coup, est-ce que tu as trouvé un mécanisme similaire du rôle des espèces réactives de l'oxygène dans les cellules de Müller? Qu'est-ce que tu as découvert?
Comme on a trouvé que la NOX était importante dans la sortie des cellules dormantes, de la quiescence à l'activation, on voulait aussi savoir ce qui s'est passé dans d'autres types de cellules et on a bloqué en fait l'activité de NOX dans les cellules gliales de Müller après une lésion dans un modèle particulier qu'on a développé dans notre laboratoire.
Ce qui est intéressant parce que justement, contrairement aux cellules souches rétinales, les cellules de Müller, elles interviennent quand il y a eu une lésion. Ce n'est pas juste une régénération au cours de la vie dans un état normal. Ce qui nous intéresse en particulier parce que le laboratoire travaille sur les cellules de Müller chez la souris.
Oui, et en fait, il y a beaucoup de recherches dans mon laboratoire dans cette sorte de cellules dans la souris et aussi dans les cénopes pour comparer dans les deux espèces et trouver ce qui manque dans les autres, par exemple, et finalement donner ces pistes. Pour trouver les moyens de les réactiver chez l'humain. dans le futur, bien sûr. Ouais.
Et donc, du coup, ce que tu as fait, c'est induire, en fait, une blessure de la rétine. Tu as induit la destruction de photorécepteurs et d'autres cellules neurales de la rétine en ayant d'abord empêché l'activité des NOX pour voir, en fait, si la rétine se régénérait moins bien et surtout si l'activité des cellules de Müller était plus faible.
Oui, et ce que je voulais faire dans une deuxième partie de tout mon projet de thèse, c'était de connaître ce qui s'est passé après l'inhibition de NOX dans les cellules Müller. Et on a trouvé que, j'ai trouvé que quand je bloquais les ROS dérivés de NOX, ça empêchait l'activation des cellules gliales de Müller.
Ah, donc, cette fois-là, on regarde en cas de blessure. Pour un autre type de cellules que les cellules souches rétinales, on voit que les cellules de Müller ont aussi besoin de l'activité des NOX et donc des espèces réactives de l'oxygène pour permettre la réparation de la rétine.
Oui, finalement, on propose que la NOX, c'est un mécanisme conservé dans les cellules souches ou type souche, comme les cellules gliales de Müller. On propose que l'activité de NOX, c'est un mécanisme par lequel les cellules gliales de Müller se réveillent.
Du coup, on sait que les cellules de Müller, elles ne sont pas actives immédiatement après une blessure, après une lésion de la rétine. Elles mettent environ 4 à 7 jours à atteindre leur pic d'activité. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le pic de production de ROS?
Oui, dans un premier moment, comme je l'ai déjà dit, on a vu que l'inhibition de NOX empêchait la réactivation des cellules de Müller. Mais ça, c'était dans une période de 7 jours. Mais comme tu dis, on connaissait déjà que la réactivation des cellules de Müller après une blessure, c'était nécessaire après une période de 4 à 7 jours. Et dans mon étude, j'essayais de bloquer dans deux périodes l'activité des NOX, ça veut dire la production des ROS. Et j'ai trouvé que dans la période de 1 à 3 jours, ça n'empêchait pas la réactivation des cellules de Müller. Et par contre, dans la période de 3 à 7 jours, j'ai remarqué que c'était la période essentielle dans laquelle les cellules se réveillaient après la blessure.
Ah, et donc surtout que si on bloque la production de ROS avant leur pic d'activité, ça n'a pas d'influence sur leur activité plus tard. Il faut vraiment le faire au moment où elles s'activent vraiment.
Oui, il faut le faire dans un précis moment.
Ok, donc c'est intéressant déjà d'avoir cette fenêtre temporelle qui permet de faire un peu une comparaison. Donc là où les cellules souches rétiniennes ont un niveau à peu près constant de ROS, qui leur permet de rester actives constamment au cours de la vie. Les cellules de Müller, qui elles ne s'activent que ponctuellement, lorsqu'il y a une lésion, ont besoin ponctuellement des ROS pour remplir cette fonction un peu de cellules souches. Ce qui confirme leur rôle important dans la régénération, mais surtout dans la régénération dans deux contextes différents.
Oui.
D'autant que les cellules de Müller sont, encore une fois, on le disait tout à l'heure, un point commun qu'on a avec les xénopes. Et donc, ça permettrait, c'est une piste intéressante à explorer, ça, du côté des modèles comme la souris ou comme les rétines humaines.
Oui, bien sûr. Il faut voir si les mécanismes que j'ai trouvés dans les xénopes sont pareils ou similaires dans d'autres modèles pour mieux voir ses capacités des cellules murales de se réveiller.
Et du coup, en fait, justement, ces enzymes NOX qui produisent des espèces réactives de l'oxygène, est-ce qu'il y a déjà de la littérature scientifique qui dit que NOX, en produisant des ROS, a un rôle dans la régénération chez d'autres animaux?
Oui, c'est déjà exploré dans d'autres modèles et dans d'autres contextes, pas dans la rétine, mais Une des premières études a révélé que c'était nécessaire la présence des roses, en particulier des nox, pour permettre la régénération de la queue après une amputation dans les sénopes aussi.
Ah, ok. Donc, c'est intéressant. Vraiment, ta recherche est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de mettre en lumière un mécanisme déjà connu dans un nouveau contexte, ce qui renforce l'idée que l'on pourrait peut-être retrouver des similitudes chez nous et les exploiter pour des intérêts thérapeutiques.
Oui, c'est ça qu'on peut voir dans les diverses espèces. C'est un mécanisme conservé.
Et donc, du coup, finalement, là, on a commencé à répondre à certaines questions, mais tu n'as pas pu, évidemment, en 4 ans, expliquer tout le mécanisme des nox et de leur effet sur la régénération. Déjà, tu as démontré qu'il y avait une fenêtre temporelle de 4 jours, c'est-à-dire 3 à 7 jours après la blessure. Est-ce que votre laboratoire va s'intéresser davantage à cette fenêtre temporelle ?
Oui, bien sûr, il faut confirmer comme toujours, on confirme chaque expérience plusieurs fois ou avec des différents inhibiteurs pharmacologiques, par exemple. Et ça, c'est l'autre projet pour une autre thésard. Elle fait maintenant ses expériences pour continuer avec ses recherches.
Donc, déjà, c'est la première question. À partir de quand est-ce que les roses sont les plus essentielles, enfin, sont vraiment essentielles pour l'activité des cellules de Müller, préciser la fenêtre temporelle. Un autre élément aussi, lorsque tu étudiais l'activité de nox dans les cellules souches rétiniennes, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule nox. Au début de l'interview, tu expliquais qu'il y avait 7 enzymes différentes. Est-ce qu'elles ont toutes, à part égale, un effet sur l'activité des cellules souches rétiniennes ?
Oui, en fait, c'est une question qu'on a aussi dans les deux projets, parce qu'on a fait l'inhibition pharmacologique des nox, mais de tous les nox, pas dans seulement un en particulier. Et dans la première partie, c'est déjà un grand avance de mes collègues, et ils se sont trouvés que quand ils bloquaient génétiquement juste un nox, nox 4, ils trouvaient la même diminution des roses dans les cellules souches rétiniennes à comparaison des autres cellules déjà différenciées.
Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc finalement, un deuxième axe pour un projet futur, ce serait de chercher à comprendre si NOX4 pourrait être une cible d'un point de vue fondamental pour l'activité des cellules souches rétiniennes. Mais peut-être que plus tard, si jamais c'est confirmé, ça pourrait devenir une cible thérapeutique.
Oui, tout à fait. Et le plus intéressant aussi, c'est que NOX4 se trouve dans les cristallins et pas précisément dans les cellules souches rétiniennes, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une interaction entre les différents signaux dans les tissus. Et ça, c'est un point à avoir dans les futurs.
Ok, un peu comme un micro-environnement.
Voilà. Oui, c'est ça.
Okay. Et donc, du coup, 4 ans à travailler sur ce sujet de thèse, avec du coup plusieurs rebondissements, plusieurs angles d'attaque. 4 ans à travailler à Paris, alors que tu viens du Mexique. Tu as étudié en espagnol, en anglais, en français. Le français est d'ailleurs ta 3e langue et je te remercie encore d'avoir accepté de faire cette interview en français qui peut être assez compliqué pour les personnes qui ne sont pas nées francophones. Est-ce que je pourrais avoir un retour de ton expérience en tant que thésarde ? Tu as fait ta soutenance de thèse en décembre, ce qui était très récent. Comment est-ce que tu vois l'expérience de ta thèse sur ces 4 dernières années aujourd'hui ?
Pour moi, c'était très enrichissant d'apprendre sur la culture française et de la manière de travailler dans une thèse ici, parce que j'avais jamais fait un projet en Europe et ça, c'était mon première expérience. Et pour moi, c'était très bien parce que j'ai pris beaucoup de techniques, j'ai connu beaucoup de chercheurs et des gens aussi en dehors de la recherche. Et oui, en général, c'est bien, très bien passé. Et oui, à faire un test pendant 4 ans, c'est un peu difficile, ou peut-être beaucoup, parce qu'on doit apprendre beaucoup de sujets et on doit avoir de l'avance, un avancement chaque semaine, chaque jour, pour avoir de bons résultats qui vont être publiés et finalement faire partie de ma thèse. Mm-hmm. Et en plus de ça, on doit aussi apprendre à être toute seule quand on est des étrangères et aussi apprendre ou améliorer la langue si on l'avait déjà appris, par exemple. Et même si on le parlait très bien, c'est un peu compliqué parce que c'est différent, la nourriture, la culture et tout ça. Mais oui, c'est faisable à la fin.
C'est quand même de notoriété publique que la thèse est une charge de travail énorme et que dans ce contexte-là, en fait, ce qui peut faire ou défaire une thèse, comme on le dirait plutôt en anglais, c'est le soutien. Le soutien personnel, mais de ce que j'ai compris, tu étais plutôt bien entourée, mais aussi du soutien financier et le soutien des institutions finalement. C'est quand même les institutions qui font que vous avez des financements ou non, que vous avez la possibilité de faire des projets plus ou moins ambitieux. De ce côté-là, comment est-ce que tu t'es sentie par rapport à ce soutien institutionnel ? Est-ce que tu as trouvé que tu avais les moyens de tes ambitions ? Et est-ce que ça a changé au cours de ta thèse ?
Oui, je crois que, comme tu as dit, le soutien vient de différentes manières, émotionnelles, de la partie de la famille, des amis et du laboratoire. Et je crois que j'étais bien soutenue pendant ces 4 années. J'avais beaucoup de formations et beaucoup de réflexions avec différents membres de mon laboratoire dans chaque lab meeting, par exemple, ou dans chaque présentation, surtout de ma directrice de thèse, qui elle était très, très accueillante avec moi. Il y a aussi le soutien financier, parce que mon laboratoire, ils avaient gagné de différents financements.
Oui, parce qu'effectivement, ton laboratoire est financé par divers organismes, publics comme privés, ce qui permet aussi, en diversifiant les sources des fonds, d'augmenter les fonds au total et qui vous permet donc d'avoir des projets un peu plus ambitieux en termes de moyens.
Oui, c'est ça. On a des divers organismes qui nous aident pour avancer la recherche. Et notamment dans mon projet, c'était l'EARC, qui est une association de recherche pour les cancers. Et comme les cellules souches, elles partagent beaucoup de caractéristiques similaires aux cellules souches cancéreuses. C'est très important de connaître les mécanismes dans ce type de cellules. Et dans mon cas, j'avais une bourse du Mexique de l'Académie des sciences. Et ce qu'ils cherchent, c'est de former des étudiants à l'étranger et après les faire revenir dans une période, pour une période de temps, pour enseigner ou pour faire des collaborations avec des diverses instituts et avancer la science là-bas.
Et d'ailleurs, en parlant justement de cet objectif de l'après-thèse, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui pour l'avenir de ta carrière ? Est-ce que tu vas revenir au Mexique, justement, juste après ? Est-ce que tu cherches d'abord à faire un postdoc en Europe ? Quels sont tes projets en général ?
Oui, mes projets en général, c'était toujours de faire de la recherche ou de quelque chose dans la recherche. Et c'est ça que je cherche maintenant. Je dois trouver un postdoc, par exemple, pour continuer à me former dans la recherche ou trouver un travail en dehors de l'académie, dans l'industrie, par exemple, comme chercheuse ou dans d'autres projets. Et comme j'avais dit, je me suis engagée à revenir au Mexique. Je dois revenir pendant 6 mois. Mais ça serait peut-être après que j'aurai fini un postdoc ou un poste de travail pour un certain temps.
Merci beaucoup, Violetta, pour cette interview. C'était un plaisir d'échanger. Et j'espère que nos auditeurs en auront autant appris que moi sur la recherche en train de se faire. Je te souhaite une très bonne continuation, bien sûr. Et j'espère qu'on se reverra vite.
Merci, merci pour l'invitation et pour partager mon sujet de thèse.
Récapitulons. Violetta a travaillé à comprendre le rôle des NOX, N-O-X, des enzymes qui participent à réguler la quantité d'espèces réactives de l'oxygène dans la cellule, ce qui contribue de manière générale à protéger la cellule du stress oxydatif. Mais dans les cellules souches de la rétine du xénope, les NOX produisent plus de séros que dans les autres types de cellules. Le même phénomène se produit dans les cellules de Müller lorsque celles-ci acquièrent ponctuellement des propriétés similaires à celles des cellules souches pour réparer la rétine endommagée. Et quand on bloque la production de ROS par ces enzymes NOX, les cellules souches et les cellules de Müller sont perturbées dans leur capacité de régénération. La production plus importante d'antioxydants permet aux cellules souches de ne pas se retrouver en état de stress oxydatif. Il y a donc un intérêt particulier pour ces cellules à avoir plus de ROS, mais lequel ? En fait, on sait que les ROS peuvent activer des mécanismes similaires à ceux activés par l'hypoxie, c'est-à-dire les environnements très pauvres en oxygène. Ces mécanismes augmentent la prolifération et favorisent la survie cellulaire. Or, des ROS plus abondants et l'hypoxie sont deux éléments que l'on retrouve beaucoup dans les micro-environnements de cellules souches adultes. Dans l'introduction, je vous expliquais que les cellules souches sont entourées par un micro-environnement qui régule strictement leur activité tout en les protégeant. En conséquence, leur métabolisme est différent des autres cellules de l'organisme. Il est donc très intéressant que seul NOX4, qui ne vient pas des cellules souches mais du cristallin, soit suffisante pour induire ce niveau plus élevé de ROS dans les cellules souches voisines. Qui aurait imaginé que le cristallin puisse être un tissu régulateur crucial, une partie de la niche de cellules souches? Est-ce un système que l'on pourrait retrouver dans d'autres animaux et d'autres contextes? On retrouve aussi ces mécanismes dans de nombreux cancers. Saviez-vous que certains cancers avaient des cellules souches cancéreuses? Elles partagent beaucoup de points communs avec les cellules souches en général, ce qui en fait une menace particulièrement vicieuse. En plus d'engendrer d'autres cellules cancéreuses, elles peuvent entrer dans un état de dormance qui les rend presque insensibles au traitement. Résultat, même après une thérapie réussie, une rechute peut avoir lieu des mois, voire des années plus tard. C'est pour cela que Violetta était en partie financée par l'Association de recherche contre le cancer. Comprendre les cellules souches, c'est aussi comprendre ces cellules. Mais n'oublions pas que la biologie n'est pas centrée autour des mammifères. La connaissance acquise sur des organismes même très éloignés de nous ouvre l'accès à des connaissances que nous n'aurions pas pu obtenir autrement. Dans le cas présent, les mécanismes de régénération observés dans les cellules de Müller du xénope semblent inactivés ou du moins plus difficiles d'accès chez la souris. Certaines levures ont été impliquées dans des découvertes majeures sur le cycle cellulaire. La drosophile, cette mouche que personne n'aime avoir chez soi, est devenue un modèle de référence pour comprendre la maladie de Parkinson. Le petit ver inoffensif C. elegans est encore indispensable pour comprendre les mécanismes du neurodéveloppement et de la neurodégénération. Nous parlerons peut-être plus en détail d'un de ces modèles dans un prochain épisode. Sur ce, je laisse votre hippocampe gérer les anciens et les nouveaux neurones pour assimiler toutes ces informations et je vous souhaite une bonne soirée en attendant le prochain épisode.
C'était Boulot Manquant. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris 93.9 FM.